10 minutes chronique. Jean-Philippe Toussaint, troisième épisode. L'ensemble publié par les éditions de Minuit, sous le titre MMMM, pour Marie, Madeleine, Marguerite, de Montalt, retrace quatre saisons de la vie de Marie. Le deuxième volume, après Faire l'amour, s'intitule Fuir. Dès le début de Fuir, nous savons que l'action de ce roman se situe avant celle de Faire l'amour, qui est le récit de la séparation de Marie et du narrateur. L'été précédent notre séparation, j'avais passé quelques semaines à Shanghai. Par ces mots, le narrateur entame la suite romanesque de Faire l'amour, alors que les événements qu'il y relate se sont passés 6 mois auparavant. Serait-ce jamais fini avec Marie ? L'été précédent notre séparation, j'avais passé quelques semaines à Shanghai. Ce n'était pas vraiment un déplacement professionnel, plutôt un voyage d'agrément. Même si Marie m'avait confié une sorte de mission, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Le jour de mon arrivée à Shanghai, Zhang Xiangzi, relation d'affaires de Marie, vint m'accueillir à l'aéroport. Dans les jours qui suivirent, Zhang Xiangzi se contenta de m'appeler une ou deux fois sur le téléphone portable qu'il m'avait offert pour prendre de mes nouvelles et m'inviter à déjeuner. Depuis mon arrivée, je passais la plupart de mes journées seule à Shanghai. Je ne faisais pas grand-chose, je ne connaissais personne. L'après-midi, je faisais la sieste dans ma chambre et je ne ressortais qu'à la nuit tombée, quand l'air s'était quelque peu rafraîchi. Je marchais dans la nuit tiède, perdu dans mes pensées. Remontais Nanjing Road, indifférent au bruit et à l'animation des boutiques illuminées de néons chamarrés. Mes pas aimantés par le fleuve, je finissais toujours par déboucher sur le Bund, accueilli par son air marin et ses embruns. Accoudé au parapet, pensif, je regardais la surface noire et ondulante du fleuve dans l'obscurité, et je songeais à Marie, avec cette mélancolie rêveuse que suscite la pensée de l'amour quand elle est jointe au spectacle des eaux noires dans la nuit. Était-ce perdu d'avance avec Marie? Et que pouvais-je en savoir alors? Il n'était pas prévu que j'aille à Pékin pendant ce voyage. La décision d'y passer quelques jours avait été prise à l'improviste. Zhang Xiangzi m'avait téléphoné un soir au pied levé pour me proposer de l'accompagner à un vernissage. C'est là que je fis la connaissance de Li Qi. La question peut se poser. Pourquoi revenir sur ce qui s'est passé avant la rupture, alors que les faits qui y sont racontés ne laissent pas prévoir un désaccord? On peut penser que le narrateur a besoin d'évoquer Marie, Marie qu'il n'a pas vue depuis des mois. Se rapprocher d'elle par le biais de l'écriture est une manière de continuer leur relation, grâce au pouvoir de ses souvenirs et de l'imaginaire, qui permettent d'évoquer un moment marquant de leur relation, avant la séparation. Dès la première phrase de ce deuxième volet, le lien entre le passé de faire l'amour et le passé antérieur de fuir est dévoilé. Serait-ce jamais fini avec Marie? Et plus loin, était-ce perdu avec Marie? Et que pouvais-je en savoir alors? Comme un aveu qui dirait l'impossibilité du narrateur de se déprendre de l'emprise amoureuse de Marie. Celui qui s'exprime est l'homme qui choisit de piocher dans le passé pour pouvoir encore évoquer Marie en racontant un épisode de l'été précédant la rupture, dans un récit où Marie n'apparaît physiquement que dans les 10 dernières pages, mais où sa personne s'insinue entre chaque ligne. Le récit se déroule d'abord comme un récit de voyage dont le but reste obscur. En compagnie de l'énigmatique Zhang Xiangzi, et d'une jeune femme, Li Qi, que le narrateur vient de rencontrer. Nous nous étions donné rendez-vous avec Li Qi devant la gare de Shanghai, autant dire en Chine. Des milliers de personnes se pressaient là sur l'esplanade, qui prenait la direction des bouches de métro ou de la gare routière, entraient et sortaient de la structure de verre illuminée de la gare, tandis que, à l'extérieur, des centaines de voyageurs étaient massés par terre dans la pénombre, le long des parois transparentes, assis et désœuvrés. J'étais sur le point de penser que Li Qi ne viendrait pas. Tout ceci avait été si soudain. La veille, nous ne nous connaissions pas, pas encore. Quand je l'aperçus soudain au loin qui fendait la foule pour me rejoindre, pressant le pas pour les derniers mètres. Elle me prit le bras, essoufflée, souriante. Elle portait une veste kaki, légère et flottante, à peine une veste, plutôt une chemise ouverte sur un étroit bustier noir, et à son cou, je remarquais un minuscule éclat de jade qui brillait sur sa peau nue. Mais quasiment dans le même temps, dans son sillage, pour ainsi dire, à quelques mètres derrière elle, j'aperçus Zhang Jiangxi, qui s'avançait lentement dans la nuit, derrière ses lunettes noires. Je ne comprenais rien à ce qui se passait, et je me sentis soudain envahi par une vague inquiétude, de déplaisir et de doute. C'est au cours du trajet vers Pékin, dans le train de nuit, que Marie appelle le narrateur au téléphone et lui apprend qu'elle vient de perdre son père. L'irruption de sa voix, mêlée à celle de la mort, dans l'ambiance survoltée d'un lieu situé à des milliers de kilomètres, provoque une faille dans le récit et un trouble vertigineux chez le narrateur, au point que sans Marie, qu'il ne peut pas toucher, pour la consoler, se consoler, il la recrée, bouleversée, autour du corps d'une autre femme. J'avais refermé les yeux et tout se confondait dans mon esprit, la vie et la mort, le soleil et la nuit, la douceur et les larmes. Je continuais d'entendre la voix de Marie contre ma tempe, et je serrais doucement le corps de Li Qi dans mes bras, dans une étreinte de deuil et de compassion qui ne lui était pas destinée. Je passai ma main sur ses épaules, caressai ses cheveux pour la réconforter. La suite du récit décrit les circonstances au cours desquelles le narrateur se trouve entraîné dans une intrigue entre Shanghai et Pékin, sans vraiment le vouloir, mais sans vraiment non plus s'y opposer. Avant de pouvoir quitter la Chine et retrouver Marie, dans les dernières pages du livre, pour les funérailles de son père. Je composais le numéro de Marie. J'entendais sonner dans le combiné. Je retenais ma respiration. Et je finis par entendre qu'on décrochait. Marie, dis-je à voix basse. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis d'une voix hésitante, une voix très faible, très fragile, à peine audible, méconnaissable. Comme si elle avait froid, qu'elle frissonnait. Elle me dit qu'elle ne pouvait pas me parler maintenant, que ce n'était pas possible. Elle me demanda où j'étais, et je lui dis que j'étais dans un hôtel, à Portoferraio. Il eut un blanc, elle ne dit rien, ne répondit pas. Elle devait être sollicitée par autre chose. Et c'est alors que j'entendis un faible son de cloche dans le téléphone. Mais en même temps que je les entendais dans le téléphone, je les entendais également sonner dans la rue. Un son de cloche, lent, régulier, lugubre, tout près de moi, dehors, dans la rue. Je tournais la tête vers la terrasse et essayais d'apercevoir quelque chose dans la rue ensoleillée. L'église devait être à moins de 100 mètres de l'hôtel. Mais je ne parvenais pas à l'apercevoir de l'endroit où je me trouvais. Et je compris alors que ces notes graves, qui résonnaient dans le silence, c'était le glas qui sonnait pour le père de Marie. Que s'est-il passé entre les deux récits, entre l'escapade à Pékin et la séparation 6 mois plus tard à Tokyo? Il nous reste à l'imaginer. Le 6 novembre, je vous retrouverai pour évoquer les deux derniers volumes des 4 saisons de Marie. Sur Westrack Radio, dans Viva Culture. À bientôt.